Chantal Georgel. Il a appris à dessiner auprès de deux peintres de Cherbourg, Dumoussel et puis Langlois. Ensuite, il a quand même fait un séjour chez Delaroche, hein, où il a appris effectivement, surtout à peindre, là d'ailleurs, parce qu'il n'avait pas beaucoup peint avant. Mais ça a été fini après. Il n'a pas eu énormément de leçons, si je puis dire. Il allait voir Delacroix parce qu'il adorait Delacroix et il était passionné par la peinture de Delacroix. Géricault aussi l'a passionné, mais on le voit bien dans Agar et Ismaël, il y a quelque chose de Géricault évidemment. Il détestait absolument le monde urbain. Il a des phrases, quand il arrive à Paris, il écrit des lettres magnifiques d'ailleurs, mais on voit bien qu'il est absolument déchiré d'avoir quitté la campagne. Donc il aime la campagne, il aime le monde paysan. Je ne suis pas sûre qu'il les considère comme les valeurs exceptionnelles, mais il est attaché au monde paysan, à ce qu'il représente effectivement, et même cette gravité, ce silence, ce labeur, ce sont des valeurs qui viennent du monde rural et du monde paysan. Il ne parle pas de sa technique ni comment il travaille, mais en revanche, il est extrêmement soucieux de trouver le meilleur fixatif dans Paris et l'inonde censier de l'être en disant « allez voir là, on m'a dit que ce fixatif était le meilleur ». Donc il a un souci de ce côté-là, de la conservation de son œuvre.
Il joue beaucoup sur les contrastes et puis les ombres.
Il adore travailler sur la lumière. C'est vraiment quelque chose qui le passionne.
Il a une approche finalement très photographique aussi.
Un peu. D'abord à Barbizon, il y avait Cuvelier qui était là, donc un des grands pionniers de la photographie, qui était ami avec lui. Et donc il regardait, il connaissait les techniques de la photographie. Il s'y essaye un petit peu aussi. Il n'en fait pas beaucoup parce qu'il abandonne vite. C'est comme la gravure, il en fait quelques-unes. Et puis finalement, une fois qu'il a compris, ça ne l'intéresse plus, il passe à autre chose. Mais il était intéressé par la photographie, oui.
Comment il a réussi à se trouver des commanditaires, on va dire, parce que là, on le voit beaucoup dans le monde paysan, mais il était sûrement à la ville également.
Il allait de temps en temps à Paris, mais c'est Sancier qui faisait le lien. Sancier qui était à la fois son courtier, son ami, à qui il écrivait tous les jours, et qui faisait le lien avec le monde parisien. Et puis après, quand il a exposé au salon, quand même, on l'a connu, forcément.
Est-ce qu'il avait l'idée de faire passer des images hein, du monde paysan à la postérité?
Je ne saurais pas dire. Il avait envie de faire quand même passer son œuvre à la postérité, donc ça, c'est sûr.
Est-ce qu'il ressentait une évolution énorme?
Ah oui, ça certainement. En plus, Barbizon étant même, contrairement à Cherbourg, qui est un lieu isolé, Barbizon, on n'est pas loin de Paris, hein, on est à 60 km de Paris, et on est dans la plaine de Brie, et là, il y avait une industrialisation déjà en place, on n'est plus dans la campagne. Et c'est pour ça que d'ailleurs qu'on dit qu'on est sûr qu'il travaille de mémoire, parce que par exemple, il n'y avait plus jamais, enfin, Barbizon, personne ne travaillait plus avec la houe quand il y habite, ça c'est sûr et certain. Donc c'est pas un travail c'est pas un travail du réel du tout. Là où on voit qu'il a très bien perçu l'évolution, c'est dans les grandes glaneuses d'Orsay, où l'on voit justement en arrière-plan les machines, il y a ces trois femmes qui glanent, et à l'arrière-plan on voit le contremaître, les machines, et c'est pour ça que c'est un tableau qui a été jugé subversif. Subversif parce qu'il osait peindre la détresse des glaneuses par rapport au... En fait, il était en empathie avec les glaneuses, qui était le monde de la misère et de la pauvreté. Et ça reléguait à l'arrière-plan le monde industriel et qui exploite en même temps les glaneuses. Il y a ces deux mondes qui se côtoient et qui se côtoient parce qu'il y a cette industrialisation.
Qui lui faisait le reproche à l'époque? Qui pouvait le considérer comme... incitateur à des révoltes?
Ça dépend des époques, ça a évolué dans le temps, mais effectivement, il y a eu au moment, vous savez, au moment 48, quand on a donné le droit de vote aux paysans, à tout le monde, mais donc aux paysans qui, évidemment, sont entrés donc, dans la vie politique, il y a eu à ce moment-là des prises de position ou très positives ou très négatives vis-à-vis du monde rural. Certains ont vu en lui, justement, le maintien des traditions universelles, donc c'était positif du côté plutôt des réactionnaires dans ces cas-là, et de l'autre côté des progressistes, c'était le monde du travail. Donc, à partir de ce moment-là, on a jugé un peu l'œuvre de Millet en fonction de cette antinomie. Il disait toujours, on me traite de socialiste, je ne suis pas socialiste, je ne veux pas qu'on me traite de socialiste. Ça ne voulait pas dire la même chose qu'aujourd'hui non plus, d'ailleurs.